meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir à toutes et à tous, amis auditeurs et auditrices de Radio Canu. C'est après Angle Mort, voici la causerie, comme d'habitude tous les dimanches de 22 à 23. Et ce soir à la causerie, il y a Fab.
Salut.
Et
Jean-Yves à la technique.
Voilà.
Et nous serons donc tous les deux.
C'est ça. Ce soir, nous serons que nous deux. Voilà. Donc, la technique sera un petit peu de moins bonne qualité qu'à notre habitude.
Sauf qu'elle sera faite à l'ancienne.
À l'ancienne, c'est ça. Eh bien, on va peut-être, justement, vu qu'on est que nous deux, on va en profiter pour saluer les causeuses qui ne sont pas là ce soir. Eh bien, on va faire un bisou à Clara, à Emma, à Jonathan et à Nadège.
Voilà qui est fait.
Yes.
Ah tiens, ça va mieux quand je mets le micro en face de ma bouche.
Ah ben oui, ça peut aider. Hein.
Non, mais on j'ai remarqué, à la radio, c'est ce qu'il faut faire.
Ouais, mais c'est si on ne te l'a pas dit aussi.
Ouais.
Bon, alors, comme d'hab, la causerie quand même, on va vous rappeler comment nous contacter, comment réécouter les anciennes émissions. Bah, Fab, je te laisse faire peut-être.
Eh ben, si vous voulez nous écrire, c'est lacausericanu@gmail.com. Donc là, c'est là qu'il faut nous écrire pour avoir même des réponses à des questions que vous poseriez sur l'émission. Si vous voulez nous contacter ou réécouter des anciennes émissions, vous pouvez aller sur les blogs de Radio Canu. Alors c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Donc en fait c'est un petit peu là qu'on consulte les commentaires, parce
c'est
qu'en
ça.
Fait ailleurs on les regarde pas, donc pas vraiment. Et parce qu'on a aussi une page sur Facebook, comme on dit,
un réseau social.
Voilà, réseau social. Bon, enfin après il y en a pas 36, donc voilà. Et si vous êtes donc des artistes, des associations, des gens qui avaient des choses à dire, des gens qui créaient, des gens qui ont des coups de gueule à passer aussi, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse essayer de voir ensemble si on peut pas faire une petite émission, même une grande.
Ou même une grande.
Pas forcément une petite.
Pourquoi voir les choses en petit?
Bah oui, c'est vrai.
Quand on peut voir grand.
Et bien pendant que j'ai la parole, je vais te lancer, Jean-Yves. C'est que le premier sujet va porter sur une soirée qui a eu lieu vendredi soir.
C'est ça. Et bien vendredi soir, donc effectivement, j'ai assisté à la soirée qui a été organisée par un collectif qui s'appelle Troubles Fêtes Malgré Nous. Alors, Fêtes, F-E, accent circonflexe, T-E. Et c'est le collectif lyonnais contre les violences sexuelles incestueuses qui organisait ça, donc. Et c'était une soirée, on l'avait annoncé en fait la semaine dernière.
Tout à fait.
C'était une soirée, alors c'était la diffusion de deux extraits de documentaire, enfin un entier et un deuxième qui était un extrait d'un plus long documentaire, je vous détaillerai un petit peu après. Et donc tout ça effectivement s'est passé
à l'atelier des canulars.
C'est ça, merci, à l'atelier des canulars.
Voilà. Il y avait un débat après.
Voilà, et c'était donc diffusion de doc, plus ensuite un débat, un échange en tout cas entre les personnes présentes, un peu pour voir un peu comment chacun et chacune reçoit ce genre d'informations-là, dirons-nous. Ce n'est même pas des informations, c'est des vécus, pardon. Et donc, je vais vous parler un petit peu des docs en fait, parce que l'idée c'est que, comme on en avait déjà parlé aussi à la causerie, parce qu'on avait interviewé Mélusine Vertelune,
oui,
qui avait écrit, j'ai perdu le nom du livre...
Ah, par nombre aussi.
Je suis désolé. En tout cas, c'était.
Vous tapez Mélusine Vertelune sur le blog, ça. Vous retrouvez l'émission. C'est et ça. Désolé pour l'oubli du nom du livre. Voilà.
C'est ça. En tout cas, c'est chez M Éditeur. Ouais. C'était avec des textes de Jeanne Cordelier tout aussi. Et que, effectivement, enfin, je pensais que on avait fait ce constat à cette époque-là. C'est que c'est un sujet, en tout cas, dont on ne parle pas. Ou très peu, très très peu, et que bah voilà, je me suis dit tiens, ça, en tout cas, ça sera l'occasion pour les auditeurs et les auditrices d'avoir bah des docs aussi à bah regarder, parce que on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un nous dise de regarder quelque chose. En tout cas, on peut aussi essayer de s'informer de son côté.
Et surtout que les docs en question sont soit partiellement, soit entièrement disponibles en ligne.
Ouais, c'est ça.
Sur internet.
C'est ça. Donc, c'est ça. Alors bah en fait, la soirée elle a commencé par la diffusion d'un premier documentaire. Lui, alors c'était dans son intégralité. Ça s'appelait L'inceste, la conspiration des oreilles bouchées. Alors c'est un doc qui date de 1988, qui a été réalisé par Carol Roussopoulos, et c'était fait pour le CFCV, Collectif Féministe Contre le Viol. Et alors que raconte ce documentaire? En tout cas, ben c'est quatre femmes, Claudine, Emmanuelle, Monique et Anne, qui témoignent des viols commis par leur père, leur grand-père. Et donc voilà, donc on a des témoignages. C'est vraiment, en plus, il faut resituer, c'est l'année 80. C'est là où on commence à en parler publiquement. Et ces quatre femmes sont un exemple, enfin vraiment incroyable. Enfin moi je les trouve très fortes, parce que effectivement briser le silence c'est pas non plus toujours évident.
Le faire face caméra non plus. D'ailleurs.
Et le face, je pense même peut-être encore moins. Ouais. Je sais pas, mais enfin voilà. Et donc ce qui est en plus, enfin ce qui est assez intéressant en tout cas, c'est qu'on a quatre femmes et quatre femmes totalement différentes, qui viennent de milieux sociaux différents, qui ont des âges différents. Ça va d'une femme qui m'a l'air assez jeune, je sais pas, peut-être la 18, 20 piges max, à je pense 40, 50 ans. Et avec
voire plus
hein.
Parce qu'il y a une femme qui est issue d'une famille catholique traditionnaliste,
oui, c'est ça,
qui a bien 60, enfin je pense qu'il y a bien 60 ans dans,
ouais,
dans
bah justement je voulais en reparler un petit peu. En fait, c'est je voulais quand même donner un peu le contenu. C'est donc c'est toujours autour de voilà, est-ce qu'on on voit aussi les choses, est-ce qu'on veut les voir, est-ce qu'on veut les entendre, est-ce que quand ces enfants parlent, est-ce qu'on veut aussi les entendre, est-ce que on veut voir quand ils ne vont pas bien. Et ça interroge vraiment, parce qu'on a Monique par exemple qui s'arrachait les cheveux et absolument personne n'a cherché à savoir pourquoi. Et là, enfin bon, ok. Anne aussi, dont tu parlais justement avant, qui elle était dans une, enfin on sent qu'elle vient d'un milieu quand même très aisé, bourgeois, etc. Et
très conservateur.
Très conservateur, effectivement. Et elle était dans une école catho, hein, ce qui en plus, oui. Et en fait, lors d'une confession, elle a dit, enfin elle a parlé de viol qu'elle a subi. Et en fait, c'est arrivé aux oreilles de la mère supérieure.
Par son père, hein, précisons.
Oui, pardon, par son père, effectivement. Et donc la mère supérieure a voulu parler avec cette jeune fille et ses parents pour lui demander en fait d'oublier et de s'excuser d'avoir dit des choses comme ça.
D'avoir dit, oui, c'est ça qui était fort.
C'était ça, il fallait qu'elle s'excuse d'avoir dit qu'elle s'était fait violer par son père. Face à sa mère, à la mère supérieure, et à sa mère et son père. Voilà. Et c'est toujours cette idée que l'oubli, en fait, ça n'existe pas. On n'oublie pas, qu'il s'agisse de viol ou bien d'autres horreurs encore que l'humanité peut subir. Donc il s'agit de qu'est-ce qu'on fait pour vivre, quoi. Parce qu'à un moment donné, je pense que ça se résume aussi à des choses comme ça, c'est on ne peut pas oublier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et ben elles, effectivement, elles ont parlé, et ça c'est je pense une étape très importante, parce que c'est sortir aussi de ce truc où on peut se dire qu'on est coupable alors qu'une victime n'est pas coupable. On faut le rappeler encore et encore, hein, que effectivement il y a encore ce truc de on peut pas cacher ça en soi, en fait. Et ça rebondit sur le deuxième à la rigueur, parce qu'on ne peut pas cacher en soi ce qu'on a subi, parce que c'est beaucoup de violence, parce qu'on contre soi-même, et que quand on est victime, je pense que la meilleure des choses, c'est pas de se faire violence, c'est de faire attention à soi, ce qui est très compliqué. Et donc effectivement, le deuxième documentaire, il s'appelait Longtemps après, un documentaire qui date de 2003, qui était de 2013. Donc premier pilote date de 2008. Donc je pense qu'après il y a une histoire de financement, etc.
Il avait été financé par la plateforme Ulule, pour ceux qui connaissent.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai.
Crowdfunding.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai. Et donc, j'ai pas cité, mais il est de Brigitte. Si, je l'ai peut-être cité. Pardon. De Brigitte Lemaine. Alors, je vais vous donner son. Il y a un site internet où vous pourrez trouver beaucoup de traces de tout son travail. En fait, c'est une réalisatrice, sociologue, etc. Et qui fait beaucoup de documentaires autour des gens qu'on n'entend pas, qui n'ont pas leur voix. Et alors.
Et parfois au sens propre.
Et effectivement.
Parce qu'elle vient du milieu sourd au départ. Elle a fait beaucoup de travail dans le milieu sourd.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça. Et donc c'est autour de. Ouais, alors il y a le milieu LSF et sourd et malentendant. Il y a les violences conjugales, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, de couple en tout cas. Il y a l'inceste. Enfin, vraiment, elle fait un boulot qui. Bon, j'ai pas tout regardé, mais qui m'a l'air très intéressant. Et donc, alors, ce documentaire, Longtemps après, j'y reviens, c'est un gros documentaire qui est fait en fait de 11 témoignages, qui durent chacun entre 20 et 30 minutes. Donc, c'est 5 heures d'image. C'est bien pour ça qu'on a vu qu'un extra cette soirée-là, quand même. Parce qu'après, il s'agit.
Mais un extrait extrêmement intense.
Effectivement, c'était. Martine et Bérénice.
Ouais, c'est ça.
C'était une mère et sa fille. Et alors déjà, je veux revenir sur ces témoignages parce que je trouve que là aussi c'est intéressant. Il y a sur les 11 témoignages, il y a 6 témoignages de victimes adultes, il y a 2 témoignages de victimes et de mères de victimes, et il y a 3 spécialistes, psychologues, psychiatres et psychiatres. Ah, j'ai oublié le dernier.
Psychogénéalogiste, c'est-à-dire le psychiatre des familles.
C'est ça, sur les choses
de
la transmission, en fait. Et donc,
psychologue des familles, pardon.
Et donc, effectivement, enfin, longtemps après, c'est longtemps après ce qui s'est passé, du viol, des viols qu'on a subis, comment que c'est ? Comment qu'on est ?
Parce que là, on peut dire, on donnait 2 prénoms, en fait, on a une mère.
Oui, pardon.
Et la fille.
Et sa fille.
Qui, en fait, finalement, la mère est détruite par les viols que son grand-père avait commis sur elle, et la fille est détruite par le fait que la mère est détruite.
C'est ça.
Vous voyez ce que je veux dire. Donc elle transmet les craintes, les peurs, les violences malgré elle. Hein, je veux dire.
Mais oui.
Mais parce qu'elle n'arrive pas à se reconstruire, parce qu'elle n'arrive pas à la verbaliser, en fait.
C'est ça. C'est vraiment. Et c'est tout ça. C'est quand on a subi ça, c'est comment on essaie de se reconstruire ou de continuer de se construire, enfin, parce que encore une fois on peut pas faire abstraction de choses aussi violentes. Donc c'est
Mais j'aimais bien dans le débat qu'il y a eu après, il y a plusieurs personnes qui sont intervenues et qui ont dit que eux ils aimaient le terme de reconstruction parce que l'agresseur a toujours l'envie de détruire totalement, et donc on est un peu obligé de remettre les morceaux avant de pouvoir continuer à construire, en fait. Et je trouvais que c'est un peu ce qui ressortait du débat, et je suis assez d'accord avec cette vision-là, parce que c'est clair que c'est d'une violence absolue, hein, enfin. Derrière, il y a tout un chemin à refaire et à voilà.
Et donc effectivement, enfin, donc ce documentaire, en tout cas, vous pouvez aussi le trouver via internet. Alors il y a des extraits, vous pouvez aussi vous le fournir.
Nous, on vous conseillerait d'acheter le DVD parce que ça aiderait la personne à continuer à faire son travail et qu'elle le fait quand même se faisant autoproduire.
Et que je trouve que vous devenez en détenant ce truc-là aussi un relais, en fait, de la parole des victimes. Parce que comme on en avait parlé quand on avait reçu Mélusine, on est quand même face à quelque chose dont on parle vraiment pas, et c'est très intéressant parce que des choses dont on avait parlé avec Mélusine à l'époque, on l'a retrouvé aussi dans cette soirée-là. C'est-à-dire que une fois que les débats, enfin que les diffusions sont terminées, on a rallumé la lumière et on a échangé entre les uns, les unes et les autres.
Après, bien, je dirais 4-5 minutes de silence absolu.
Ouais. Mais justement, c'était ça.
C'était hyper impressionnant quand même.
C'est ça que je voulais rajouter. Alors, il faut briser le silence, mais quand on n'est soi-même pas forcément victime, touché, victime, on est quand même dans le silence, quoi. Parce que effectivement, je pense qu'on est face à des choses qui nécessitent une déconstruction, une critique radical, je pense réellement, parce que et pas se cacher derrière des leurs en fait, parce que je pense qu'effectivement, quand on veut s'attaquer à l'inceste, on s'attaque au patriarcat. On s'attaque à l'ordre moral, on s'attaque
à la famille.
À la famille, bien évidemment.
Et à la notion de famille, d'ailleurs.
Et à la notion de famille et tout ça. Et que les échanges, effectivement, étaient intéressants. Enfin, parce que, oui, on voit bien que c'est un sujet. Enfin, tu te rends compte, en fait. Enfin, moi, je me suis rendu compte du pourquoi, en fait, personne n'en parlait. Ou, bah oui, en fait. C'est parce que ça fout tout le monde mal à l'aise, en fait. Mais comme sûrement plein d'autres choses.
Ça met mal à l'aise parce que ça t'oblige à regarder en face. C'est ce que disaient les membres du collectif. C'est qu'il y a 2 à 3% de victimes, donc de femmes et d'hommes victimes de violences incestueuses ou de viols incestueux. Et en fait, elle disait, il faut le retourner, ça. Ça veut dire qu'il y a 2 à 3% de personnes qui commettent ces actes-là. Mmh. Et elle disait, donc du coup, il faut accepter qu'autour de nous, dans nos familles, il y ait des gens qui soient capables de faire ça. Ouais. Et en fait, c'était intéressant parce que c'est Sophie qui est venue sur ce sujet-là en disant que la difficulté pour les gens, c'est d'admettre que ben, tonton, papa, ou même parfois, comme elle le disait, maman, parce qu'il y a aussi des actes incestueux faits de femmes, même s'ils sont largement minoritaires par rapport à ceux commis par des hommes, ben, peuvent être des bourreaux. Et que dans la famille, on vous apprend que c'est pas possible normalement.
Ben oui.
Et que donc du coup, c'était intéressant justement de voir que dès qu'on touche à la notion d'inceste, c'est ce que Mélusine disait aussi, c'est ce qu'on a vu là, on touche à la notion de famille et que du coup, on sentait dans le débat que ça mettait mal à l'aise. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y avait un côté ah oui, mais quand même, bah oui, mais sauf que si quoi, je veux dire.
Sauf que voilà. Si, oui, on peut pas démentir les chiffres, enfin à un moment donné non plus quoi. C'est donc voilà, mais en tout cas, l'échange était vraiment très intéressant et enfin j'ai trouvé encore une fois là aussi des personnes courageuses parce que faire face au public et pleinement assumer que. Enfin, il y a tout ce truc là, ce trouble entre.
Après, c'est le. Moi, je trouve que c'était intéressant. Il y a une intervenante qui disait, on peut passer. On est victime à un moment donné, mais après, on n'est pas que ça.
Voilà.
C'est qu'après, on est victime, ça pose une chose dans notre vie, et après, on n'est pas que ça. Après, on est le reste aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ça aide pas les victimes de les ramener qu'au fait d'être victime. Loin de là, bien au contraire. Par contre, ça aide les victimes d'être entendues sur ce qui s'est passé.
C'est ce que
racontait une intervenante qui a vu un cas d'inceste dans sa famille entre un frère et une sœur et qui disait, enfin c'était une personne qui était venue à la soirée et qui expliquait que aujourd'hui avec sa fille, elles en parlaient, pas tout le temps, mais que quand sa fille avait besoin d'en parler, bah, elle acceptait d'entendre, même si c'était pas agréable, que c'était violent, que c'était tout ce que vous voulez, mais qu'à un moment donné, ben c'est le seul moyen, c'est-à-dire d'accepter d'entendre pour aider quelqu'un qui a subi un acte comme ça à se construire et à se consolider. Et elle disait, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, j'étais assez d'accord avec elle. Elle a par la parole, il n'y a rien d'autre. Donc voilà.
Mais oui. Et il y avait aussi, enfin, je vais rajouter ça, mais enfin, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le public, effectivement, il y avait aussi une personne, enfin plusieurs personnes certainement, qui travaillaient dans le milieu social et éducateur et des choses comme ça, et c'était une femme qui parlait de sa formation, 2 ans de formation, un jour. C'est bien ça.
Une semaine pour l'ensemble de ce qui touchait le pénal autour de l'enfant. Donc vous imaginez une semaine pour parce que ça va des cas de divorce, en passant par l'inceste, en passant par les droits de l'enfant. Et donc elle avait eu une semaine de formation sur toute sa formation là-dessus. Quoi. Donc,
c'est ça.
Et elle disait l'inceste, c'était, je crois, une demi-journée
ou une journée,
enfin quelque chose de très très court.
C'est ça.
Voilà.
Alors que ces gens-là sont des professionnels qui sont en contact assez régulier et direct avec potentiellement des victimes.
Bah, oui.
Tu te dis, mais ils ont pas de formation, quoi. Donc, enfin bon. Donc, c'est toujours aussi. Après, les réactions sont.
Moi, je vais redire ce que j'ai dit dans la soirée, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit l'éducation nationale ou l'ensemble du corps, on va dire, qui encadre les enfants, j'ai ce mot-là, on recule, en fait. C'est-à-dire qu'on voit que l'influence des réacs. Fait reculer sur plein de sujets. C'est ce que je disais. Il a suffi qu'on dise les enfants ont le droit de s'interroger un tout petit peu sur le genre pour que vous ayez une levée de bouclier avec des tonnes de réa qui venaient empêcher les choses de se faire. Alors imaginez si des gens, si on venait demain à dire on va essayer de libérer la parole sur l'inceste dans l'école parce que ça peut aider les enfants au plus jeune âge. Mais là vous verrez la levée de bouclier. Ouais. Et elle, au lieu de, on devrait normalement ne pas avoir peur de cette levée de bouclier et dire non, mais c'est vis-à-vis de personnes qui ont été victimes, qui ont besoin de ces espaces-là. Et ben non, aujourd'hui on recule face aux réacs sur tout. Et c'est un petit peu ce qu'on voit, parce que même dans les formations, du coup, c'est facile. Hein, vous ne formez pas quelqu'un à quelque chose, vous êtes sûr que rien ne se produit derrière. Mmh. Et comme ça, vous êtes tranquille. Moi, c'est mon point de vue, hein, je vous n'êtes pas obligé de le partager.
Donc voilà, enfin, je vous rappelle quand même vite fait le nom des documentaires et je vous, enfin, vraiment, je vous invite à les regarder parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne regarde pas les choses que les choses n'existent pas et que le mieux, c'est qu'il faut les regarder, quoi. À un moment donné, face pour pouvoir s'y attaquer. Donc, le premier documentaire, c'était donc L'inceste, la conspiration des oreilles bouchées de Carole Roussopoulos. Et le deuxième, c'était donc Longtemps après de Brigitte Lemaine.
On va rappeler aussi le collectif qui avait invité.
Oui. Le collectif, c'était donc le collectif Troubles faites malgré nous. Oui. Collectif lyonnais contre les violences sexuelles incestueuses. Collectif qu'on devrait sûrement avoir dans la causerie en janvier, février, en tout cas
on espère, on fera tout pour avoir
on vous en dira plus d'ici là. Et je voulais juste aussi ici rajouter il y avait une BD qui a été c'est une des membres de l'association
Un des outils qui existent.
Ouais, c'est un des outils qui existent et c'est une petite BD. Alors je l'ai vue et on peut la télécharger, on la mettra sûrement sur le blog. Ouais. C'est un truc que vous pouvez réimprimer chez vous et c'est l'histoire du petit ballon violet. C'est un petit ballon qui en fait subit des viols de son père et il se peinture lure.
Normalement ils sont multicolores.
Et
lui en fait il est violet parce qu'il
subit
à cause de ça.
Voilà. Et en fait après il essaie de se déguiser, en tout cas de se grimer derrière plein d'autres couleurs, mais c'est pas les siennes en fait. Et tout ça, enfin, donc c'est aussi parler de l'inceste avec nos enfants, avec les enfants, c'est aussi parler parce qu'à un moment donné, pour que ça arrive pas, faut aussi armer les enfants, quoi. Leur dire qu'on n'a pas le droit, en fait, que les gens n'ont pas le droit de les toucher, pas le droit. Donc voilà. Eh ben, je crois que je vais m'arrêter là.
Tu mets un peu de musique.
On va passer à la musique. Eh ben, dis donc. Eh ben, vous êtes toujours à la causerie. Et on vient de s'écouter, donc. C'était le titre Psychédélia de X-Lens. Alors, je vous le dis, c'est une compile tirée d'un... Enfin, c'est une compile, en fait, de psyché indien, en fait.
Ouais, des films indiens vraiment... des années 60 à 80.
Ouais, c'est ça, c'est, ouais. Pff, c'est énorme.
Indien, d'Inde.
Oui, d'Inde, oui.
Ah, parce que,
oui.
Bon, précisons.
Et ben, Fab, ça va être à toi, je crois bien.
Oui. Oui, c'est à moi, mais avant, je voudrais que tu redonnes le titre.
Ah oui, pardon.
Qu'on a retrouvé
on a retrouvé le titre, effectivement, du livre dont on vous parlait avant, de Mille Usines Vertelune, pardon. La fatigue, c'est pas facile. Ni silence, ni pardon, c'est L'inceste, un viol institué, voilà. Et c'est chez M Éditeur. Ça, je
tout
me souviens,
fait.
C'est une maison d'édition québécoise.
Mais c'était important de redonner le titre.
C'est ça.
Alors, moi.
Alors, Fab, toi, je crois que tu veux nous parler d'un truc dont.
Personne ne parle.
C'est ça.
Évidemment, parce que sinon, non. Je vais vous parler, en fait, de l'énorme escroquerie que l'on vit aujourd'hui, qui s'appelle la COP21. Voilà. Et alors, la COP21, alors, je vous rappelle que la COP21, c'est la réunion des partis, hein, comme on dit. C'est ce que veut dire COP. Voilà, conseil. Ouais, c'est veut dire, en gros, qu'on réunit les gens qui sont concernés.
Okay.
C'est un terme très onusien. Voilà. Alors. J'ai appelé ça la COP21 le grand bluff, parce qu'on va en fait, je vais faire ça en deux parties. Donc le premier va s'appeler le grand bluff, parce que je trouve que c'est assez drôle. Alors déjà, je vous rappelle le principe de la COP21. C'est né à Rio de Janeiro en 92, et on avait demandé à une gentille petite fille de venir faire un discours magnifique à plein de chefs d'État pour leur dire, mais vous pourriez faire en sorte que quand j'aurai 30 ans, j'ai encore un espace vivable sur cette terre. Voilà.
Et je crois que ça avait ému tous les chefs d'État.
Tout le monde pleurait. Ouais. Enfin, ouais, je me rappelle à l'époque. Enfin, non, je me rappelle pas du tout, mais. Mais voilà, donc en gros, c'était parti comme ça, et ce discours, d'ailleurs, fréquemment, régulièrement, on nous le resserre, et on nous le remet alors, sur les réseaux sociaux, à la télé, tout ça, pour dire, ou même entre eux-mêmes, d'ailleurs, des fois, on vous le donne à lire, ce qui est, voilà. Alors, on va être très clair, ce discours, on a découvert depuis que la jeune fille, elle l'a pas écrit toute seule, et qu'en fait, c'était un petit peu des ONG environnementales qui lui avaient un peu beaucoup écrit. Mais bon, c'est pas grave, utiliser des enfants, c'est jamais dramatique.
Voilà.
Non, bref, non, déjà au départ, ça c'est pourri, mm-hmm. hein, et je trouve ça assez naze. Alors la deuxième arnaque quand même du grand bluff de la COP21, c'est que en fait la COP21 c'est le meilleur outil, enfin la COP. Parce que là, c'est la 21e COP, d'où son nom, COP21. Donc la COP, c'est le meilleur outil pour rien faire. On va être très clair. En 1992, en fait, y a des scientifiques qui se réunissent et qui se rendent compte que, on va dire, en gros, les émissions de gaz à effet de serre, plus le méthane, plus d'autres gaz qui réchauffent l'atmosphère, ont une tendance à accélérer la courbe habituelle de réchauffement de la planète. Ah oui, parce que les climato-sceptiques vous expliqueront que la planète, ça se refroidit et ça se réchauffe régulièrement. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Sauf que le problème, c'est la vélocité, c'est-à-dire la rapidité à laquelle ça se fait. Alors, si ça va doucement, c'est que c'est normal. Si ça va très vite, c'est qu'il y a un bug. Et quand il y a un bug, c'est qu'il faut trouver d'où vient le problème. Et ces scientifiques, dans les années 90, ils ont déterminé que le problème, c'était nous. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont dit, en fait, la seule explication probable, à l'époque on disait probable, aujourd'hui on sait que c'est la seule explication, c'est le fait qu'on est passé dans une ère industrielle et que donc on rejette énormément de CO2 dans l'atmosphère par rapport à ce qu'on en rejetait pendant 100 000 ans. Avant, parce qu'on a, ça fait l'être humain, 100 000 ans à peu près qu'on utilise des outils, tout ça. Donc, du coup, en 100 ans, on a rejeté à peu près, je crois, l'équivalent de ce qu'on a rejeté en 100 000 ans, un truc dans le genre. Donc, un petit peu beaucoup.
C'est pas mal.
Et du coup, ça accélère un peu tout ça. Alors là, les chefs de gouvernement, ils ont dit, on fait un truc. Parce que c'est toujours comme ça. Quand il se passe quelque chose dans le monde, faut faire un truc.
Ils font des trucs.
Alors, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, il y en a, ils avaient des idées un peu folles. Hein, ils ont dit, et si on arrêtait de faire du CO2? Alors là, les Américains, tout ça, les Français, ils ont dit, oh non, déconne pas. Nous, c'est l'industrie, tout ça, tout ça. Et puis, en plus, on est en train de délocaliser en Chine, donc nous fait pas chier. On va quand même pas arrêter de faire du CO2. Non, mais je schématise, mais c'est pas loin.
Mais à la rigueur, ce qui est assez. C'est amusant, c'est quand même certains Européens peuvent prendre cette posture de oui, il faut réduire. Mais en fait, c'est parce que toute la délocalisation, elle fait que la Chine produit peu près 80%
elle produit à 80% pour l'export.
Voilà, voilà. Donc ce qui fait que, effectivement, il y a 80% à la rigueur de sa pollution qui ne lui appartient même pas, quoi.
Et oui, on va y venir à ça.
Vous allez voir, ça va
être super drôle, vous allez vous marrer.
Ok.
Et oui, donc, parce qu'il faut en rire. Il faut rire de la fin de l'humanité quand même.
Oui.
Toujours rire de la fin de l'humanité.
Oui.
Et donc, Je fais de l'humour noir. Hein. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont d'abord réuni 90 chefs d'État, puis maintenant on est à 150 en ce moment. C'est à la mode, tout ça. On se réunit. Alors là, c'est au Bourget. J'avais dû voir les images. Hein. Ils ont très bien mangé a priori. Ça, c'est le truc important parce que tous les journalistes nous ont donné les repas, hein, tous les menus de chaque jour. Donc je suis content. Ils ont bien mangé.
C'est hyper important.
Ouais, parce que alors par contre, parler de ce qu'il y avait à négocier, personne vous l'a dit. Hein, mais par contre, ils ont bien mangé. Donc ça, déjà, on est rassurés. Ils sont tous venus en avion aussi. Ça aussi, très très cohérent. Et ils avaient tous au moins 12 ou 14 véhicules autour d'eux. Donc ça, c'est hyper cohérent aussi. Hein. On voit bien que voilà, la notion de COP21.
Bah oui.
Et alors, des fois, on arrive à des images ultra ridicules, du genre Christiane Taubira qui est sur son vélo, mais qui est suivie par 3 motos, 2 voitures, parce qu'on est en état d'urgence. Et là, c'est ridicule.
Non, mais oui, c'est ridicule. Voilà.
Alors, il y a autre image ridicule venant des ONG, Je ramène de la banquise sur une place parisienne pour la laisser fondre, pour que les gens comprennent que la banquise fond.
Ouais.
Donc, je propose que pour que les gens comprennent que des enfants meurent de faim, on en mette dans des cages sur une place pour qu'ils meurent de faim devant eux. C'est stupide, c'est ridicule, mais c'est aberrant. C'est-à-dire, c'est aberrant. Alors, on va être clair. Oui, il y a un réchauffement climatique. Oui, c'est la merde absolue en ce moment, parce qu'il faut arrêter de prendre des pincettes. Oui, aujourd'hui, des gens subissent ces effets du réchauffement climatique, déjà de plein fouet. Oui, on devrait faire quelque chose, très clairement, et on devrait le faire vite. C'est-à-dire que le problème, c'est, encore une fois, la vélocité, la rapidité des choses. Donc, pour être très clair, si on avait commencé à faire quelque chose en 1992, c'est-à-dire quand on a fait la première COP, eh bien, on aurait une chance aujourd'hui d'être à un réchauffement en 2100 autour de 1,5 de degrés en plus. Donc en fait, on serait sur un réchauffement qu'on dit contrôlable dans le sens où un réchauffement d'un degré global sur la planète n'a pas d'influence directe sur les cultures, sur les espèces, sur tout ça. À 1,5, 1,5, c'est une moyenne, hein, on commence à avoir des effets sur les espèces, c'est-à-dire qu'elles se déplacent. C'est comme ça que vous avez aujourd'hui des cigales à Lyon. Ce qui n'existait pas il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, vous avez des cigales à Lyon. Donc, si elles sont arrivées et qu'elles peuvent vivre, bah, c'est qu'elles remontent du sud, en fait. Donc, ça, c'est un premier effet qu'on peut constater avec l'oreille. Voilà. Donc, ça, c'est l'effet le plus sympathique.
Et quand on les entend, ça veut dire que ça fait 17 ans?
Ouais, c'est ça, parce que la cigale qui est à Lyon, c'est une qui reste entre 9 et 17 ans sous terre, donc elle a mis un certain nombre d'années à monter. Donc, ça, c'est 1,5, voilà. Quand vous passez entre 1,5 et 2,5, donc en gros, quand vous êtes à 2 degrés, vous avez des effets sur les zones dites humides et les zones dites arides. Alors, pour être très clair, aujourd'hui, quand on vous dit à la COP là, actuelle, on dit on va limiter à 2 degrés. Bon, en gros, vous allez massacrer 1 milliard d'êtres humains. Alors, quand je dis ça, les gens me disent « Oh bah, pardon, quoi, pourquoi ?» Eh bien, tout simplement parce que l'Afrique, qui est le premier pays qui va être touché par le réchauffement climatique directement, si vous montez à 2 degrés, les zones désertiques vont s'étendre, on estime, entre 30 et 47%. Voilà. Alors pourquoi 47? Parce qu'il y a des montagnes. Hein. Il y a des gens qui disent ouais, comment ils arrivent à 47? Parce que le désert, il saute pas les montagnes encore. Donc il s'arrêtera aux montagnes. Donc entre 30 et 47%, donc c'est la surface qui pourrait s'étendre, notamment le Sahara. Et les températures vont elles augmenter en moyenne de 5 à 7 degrés à certains endroits. Parce qu'en fait, un réchauffement climatique, c'est pas global.
C'est la moyenne qui est globale.
C'est pas partout il va faire plus de 2 degrés. Mmh. C'est une moyenne. Donc forcément, il y a des endroits où il va faire beaucoup plus chaud et d'autres où en fait, ça va se maintenir, voire même diminuer à certains endroits du fait des couches nuageuses. Eh ben oui. Parce que ça, c'est un effet qu'il peut y avoir. Si vous avez plus de chaleur, vous avez plus d'eau qui s'évapore, donc il y a plus de nuages, et donc vous avez moins de réchauffement global sur cette partie-là. Eh oui, mettez-vous sous un parasol, vous avez moins chaud que quand vous n'avez pas le parasol. Même effet. Voilà. Alors, sauf que ça marche pas exactement comme ça, je schématise énormément. Parce qu'on va vous dire, sous une couche nuageuse, il fait plus chaud, blablabla. Oui, c'est vrai, tout ça. Mais c'est pour expliquer que ça va pas être partout pareil. Et donc à la COP, là, celle-là hein, qu'il y a en ce moment, eh ben on a fait un joli petit truc de 20 pages, un petit brouillon, pour dire voilà de quoi ce qu'on pourrait signer demain, parce que je vous rappelle que c'est aujourd'hui que ça doit se signer, hein, théoriquement, voire lundi, s'ils n'ont pas le temps. Donc le petit brouillon, il dit quoi? Il dit « Ouh, on est tous des vilains et des méchants ». Bon, ça au départ, c'est pas mal, parce qu'on prend conscience qu'on est tous responsables. Bon, après, le problème, c'est qu'ils disent « On est tous responsables, pareil ». Alors là, par contre, c'est pas vrai. Parce que je rappellerai que les 10% les plus riches, donc c'est-à-dire nous, hein, émettent 50% du CO2 mondial. Voilà. Donc, on n'est pas tous responsables pareil. Non, le paysan au fin fond du Kenya, il est beaucoup moins responsable que l'occidental avec ses 3 voitures. Enfin, pour être très clair, hein, voilà. Mmh. Donc voilà, ou le front, donc ça déjà c'est une grosse connerie qui est mise. Alors la deuxième grosse connerie, elle vient après parce que c'est là que c'est drôle. C'est on arrête de calculer le CO2 importé. Alors c'est quoi le CO2 importé ? Bah vous savez que la France, elle dit qu'elle est bonne élève, mais la France en fait depuis maintenant 20 ans, elle compte pas le CO2 qu'elle importe. Quand vous faites fabriquer en Chine, bah normalement vous devez dire si je rapatrie sur mon sol, c'est du CO2 qui m'est imputé à moi français. Bah oui, parce que c'est pas le chinois qui a produit pour lui, c'est lui qui a produit pour vous. Donc, sauf qu'on le fait pas. Donc en gros, on est en train de dire, bah dans cet accord, oh bah du coup, celui qui émet, c'est le méchant. Mais sauf que c'est un petit peu facile d'un point de vue, d'un point de vue de l'exploitation humaine. Donc du coup, là, on en est là, c'est-à-dire qu'on est dans un papier où on se fout de la gueule du monde.
Avant que je te coupe, mais je me dis quand je vois les dernières images que j'ai pu voir de Chine avec un ciel qui était juste dégueulasse. Je pense que les Chinois seraient contents en fait, de pas produire pour autres en fait.
Clairement, sauf que
je pense qu'ils respireraient mieux.
Toute la logique économique aujourd'hui est faite comme par la délocalisation, donc forcément. Et donc dernier truc du papier, il est donc écrit quand même un truc noir sur blanc que la COP s'engage à sauvegarder le système économique mondiale, donc le capitalisme. Donc voilà, donc en gros, on a un papier qui nous dit que tout va bien, a priori, qu'on n'est pas pressé, parce que je vous rappelle que je n'ai pas cité ni de
limites,
ni d'échéanciers, ni de choses contraignantes, ni quoi que ce soit.
Bah, c'est-à-dire qu'ils se rendent quand même compte qu'à force de dire qu'ils font faire des trucs et qu'ils font jamais rien,
ils le disent plus, quoi.
Ça sert à rien de le dire.
Donc en gros, ça n'a servi à rien, pour être très clair.
Part ce doré là.
Et donc, c'est le cas de toutes les COP, depuis 21e, c'est la 21e COP, celle qui avait été fait le plus de bruit, c'était Copenhague. Souvenez-vous, parce qu'à l'époque, les écolos croyaient qu'on allait vraiment faire quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'ils sont marrants. Et du coup, je suis désolé. Je me marre parce que j'ai écouté Greenpeace tout à l'heure. Alors, pardon, pour ceux qui aiment bien Greenpeace, mais le monsieur de Greenpeace dit, la COP21 est une grande avancée. Alors, je sais pas ce qu'il appelle grande avancée. Parce que, moi, j'ai pas compris, la grande avancée, à part qu'on mettait tout sur le dos des Chinois, en gros. C'est un peu court et qu'on dit aux Indiens en plus développez-vous pas trop. Je trouve que voilà. donc c'est assez foutage de gueule tout ça. Alors ça c'était ma première partie sur le bluff. On va faire une petite pause musicale et je vais revenir après sur qu'est-ce qu'on aurait dû peut-être un peu y mettre dans cette COP21 plutôt que d'y mettre ce qu'on y a mis. Ouais, c'était super bien comme phrase.
Elle est pas mal.
Ouais, c'est parce qu'après, il y a du métal symphonique. Je voulais habituer les gens à avoir des trucs compliqués dans la tête.
Ouais, surtout bruyant, quoi. Bon, allez, on s'écoute ça.
et la causerie dimanche 22-23h avec un titre de Nightwish et c'était donc Week Fantasy et comme dirait Jean-Yves et pour lui on dirait du David Hasselhoff, je sais plus
ouais,
quoi
ou
faire.
Du Scorpion, un truc comme ça, mais c'est pas grave hein, attends.
Non mais voilà, alors juste je voulais juste dire qu'ils ont une nouvelle chanteuse qui s'appelle Floor Jensen et qui est excellente, vous avez pu l'entendre, et voilà, sur scène elle est excellente aussi, et surtout dire que pour une fois elle essaye pas d'imiter Taria qui était l'ancienne chanteuse, ce qui fait qu'elle a son style à elle et ça fait vachement du bien. Voilà.
Taria qu'on entendra
à la fin de l'émission.
Okay,
c'est
ouais.
Le choix de Clara. Donc voilà.
Allez, on continue, je crois que bah, oui. Toujours sur la COP.
Oui, alors voilà. Alors, donc, du
21e
coup,
édition.
21e édition et la 22e à Marrakech bientôt. Et c'est vrai en plus. D'accord. Donc vous voyez, là aussi, on choisit toujours des pays très, très sympas. Parce qu'on mange bien. Donc voilà. Donc du coup, c'était pour dire qu'il y avait eu cette COP qui sert à rien et qui de toute façon n'a pas pris en cause les vrais enjeux parce qu'on essaye toujours de les minimiser. Alors déjà, les premiers vrais enjeux, c'est que plus vous produisez en faisant de l'import-export, et plus, évidemment, vous faites du CO2. Bah, c'est une évidence, parce que vous faites du CO2 quand vous produisez, puis vous faites du CO2 quand vous importez ou exportez, et quand vous prenez des moyens de transport. Alors surtout qu'aujourd'hui, une grosse part de l'import-export se fait en par bateau, et que pour info, on est toujours incapable, parce que personne ne veut le faire, de mesurer combien les bateaux émettent de CO2. Donc c'est un peu, on dit c'est pas polluant, mais en fait personne n'a jamais vraiment fait le calcul, et ceux qui l'ont fait estiment que un bateau c'est ultra polluant, parce qu'en fait ça brûle du mazout lourd, ça brûle pas du tout du mazout allégé ou autre, et ça brûle pas du kérosène, ça brûle du mazout lourd, c'est-à-dire le mazout qu'on met même pas dans les camions, c'est-à-dire ça brûle ce qu'il y a en dessous, encore plus dégueulasse avec du soufre et tout, et en fait c'est une tuerie d'un point de vue environnemental, quoi, je veux dire, voilà.
Vu que ça se voit pas,
comme c'est en pleine mer, tout le monde s'en, voilà, mais en fait ça pollue énormément. Donc déjà, il faudrait, en théorie, si on était cohérent, que la COP serve à relocaliser, c'est-à-dire à dire on va répartir la construction des différents objets dont on a besoin, plutôt que de les faire qu'à deux ou trois endroits dans le monde, parce que c'est le meilleur moyen de diminuer les émissions de CO2 de façon très simple. Voilà, sans se prendre la tête 3 heures, et voilà. Sauf que ça, on l'aborde pas, parce que ce serait une entrave au capitalisme.
Ben oui.
Et comme la COP, elle est là aussi pour protéger le libre marché et le capital, c'est un peu embêtant de dire ça. Donc déjà, on dit pas ça. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'on dit aux pays qui ont des problèmes, donc par exemple le Bangladesh, qui vient de classer un tiers de son pays comme zone non habitable, parce que les eaux montent et que du coup l'état du Bangladesh vient de décréter que personne ne va avoir habité là, parce que sinon, ils vont se noyer, tout simplement. Enfin,
un tiers
du pays. Ouais. Le Bangladesh a quasiment deux tiers de son pays qui est au niveau de la mer. Donc, imaginez bien que si la mer monte, parce que c'est un pays qui est extrêmement marécageux, si la mer monte, l'eau s'infiltre, rentre, et puis du coup, les sols sont gorgés d'eau, donc vous pouvez plus vivre là. Parce que quand on dit c'est immergé, ça veut pas dire qu'on voit plus de terre, ça veut dire qu'on ne peut plus tenir sur la terre tellement elle est gorgée d'eau. Ça commence là, on voit pas forcément de l'eau à vos pieds.
Okay.
Donc, le Bangladesh, un tiers. L'Indonésie aussi, qui elle a une méthode très, très, très militaire, et qui de force vide des îles complètes parce que les îles sont en train de disparaître. Et des bords de côte complets. Alors c'est des déplacements de population. En plus, ça tombe bien pour eux parce que ça leur permet de taper sur la minorité ethnique du coin. Et cette fois-ci pour soi-disant des raisons écologiques. Donc, vous voyez, en plus on se sert de raisons écologiques pour faire du nettoyage ethnique. Pourquoi s'arrêter, je veux dire. Donc voilà. Non, mais il y a quand même des réalités. Alors il y a un pays en particulier qui a vraiment poussé un cri d'alarme cette année et qui a pas du tout été entendu, parce que évidemment c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, en fait, jusqu'à maintenant, c'est un pays qui était plutôt, on va dire, très très capitaliste et qui a toujours défendu des positions extrêmement libérales en disant non, il faut rien empêcher, moi je veux pouvoir me développer, blablabla. Sauf qu'en fait la Nouvelle-Zélande, elle est en train de prendre de plein fouet le réchauffement climatique, parce que du fait de la fonte, alors non pas des glaces du sud, mais des glaces du nord, c'est un peu c'est ce qu'on appelle un effet rebond dans les océans, il y a un courant qui s'est légèrement dévié, parce qu'il est dévié au nord et qui, hop, passe au sud, vous voyez, il fallait nord-sud, et ce courant, en fait, fait que la Nouvelle-Zélande aujourd'hui a des difficultés à s'approvisionner en poissons. Parce que, oui, quand vous changez les conditions, le poisson se déplace. Et c'est ce qui vient de se passer. Et étonnamment, cette année, la Nouvelle-Zélande avait une grande envie de dire qu'il fallait faire quelque chose. Bon, c'est toujours quand on est touché qu'on se dit, tiens, si on faisait un truc. Donc voilà, c'est des exemples typiques des effets qu'il y a en ce moment. Alors, je vais en prendre un encore plus dramatique. qu'on estime aujourd'hui qu'il y a entre 150 et 200 millions de personnes qui sont des réfugiés climatiques. C'est-à-dire que c'est parce que l'endroit où ils habitaient devient complètement invivable qu'ils sont obligés de se déplacer. Alors pour l'instant, on les voit pas trop, ces gens, parce qu'ils se déplacent généralement de pays voisins en pays voisins. Donc ils vont partir, c'est principalement en Afrique que ça se passe et dans le sud asiatique. Donc ils vont partir d'un pays et puis ils vont aller dans le pays d'à côté. Donc en fait, on règle ça en local et personne ne parle vraiment de ces réfugiés-là. Et puis bon, on se dit, oui, c'est pas grave, ça concerne pas les riches. Parce que c'est un peu ça l'idée. Sauf que ça peut pas marcher 100 ans, ça. C'est quand même un moment où il y a plus de place. Donc les gens vont commencer à émigrer vers d'autres pays, d'autres régions. Et donc, nous, on va être confronté à le devoir accueillir des gens parce qu'ils peuvent plus habiter chez eux. Voilà. Et ils ne peuvent plus habiter chez eux parce que notre mode de vie fait qu'ils ne peuvent plus habiter chez eux, je le rappelle, hein, juste au passage. Sauf que on voit bien que la politique migratoire aujourd'hui, elle est ultra restrictive et que donc du coup on fait le choix de flinguer, laisser mourir des gens sur place. C'est la deuxième chose que la COP aurait pu décider, c'est de mettre en place une politique de protection des réfugiés climatiques. Et ça, ils n'ont pas dû avoir le temps entre le poulet, l'agneau et les agapes, il n'y avait pas le temps de discuter du sort de millions d'êtres humains en fait. Hein.
Alors, en même temps, quand je vois le sort que les gouvernements de plein de pays, réservent à ceux qui fuient les bombes, la mort, on va dire, enfin, tu vois.
Alors, imagine pour le climat. Quoi.
Le climat, mais. On fuit pas le climat, enfin. Et c'est pas Aznavour qui disait que la misère était
plus belle au soleil. C'est horrible.
oui, c'est horrible.
Et non, mais c'est ça. Et c'est, en plus, c'est super hallucinant parce que comme les climato-sceptiques sont hyper bien payés par les multinationales pour être sur tous les plateaux de télé dans les pays riches, les gens doutent. Parce qu'ils disent, ouais, mais... Alors, vous voyez, c'est la phrase très con, par exemple, c'est... on voit bien quand même que ça se réchauffe pas. On a eu froid pendant 2 semaines, là. Vous savez, parce qu'il y avait fait froid, là, 2 semaines. Oui, il y a fait froid 2 semaines. Voilà. Alors maintenant, vous réfléchissez 2 minutes, vous vous posez, puis vous essayez de vous rappeler quand vous étiez jeune, enfant, il y a une 20aine d'années pour certains, 30 ans pour d'autres, 40 pour d'autres, puis vous essayez de vous rappeler, si vous habitiez la région lyonnaise, ce que c'était que Lyon, quand on arrivait au mois de novembre. En général, il pleuvait, puis fin novembre, il neigeait. Et puis, des fois, on avait le Rhône et la Saône qui étaient gelés. Là, on a 11 degrés aujourd'hui. Voilà. Parce qu'en fait, il y a un réel effet qu'on voit, qui est palpable, en réalité, mais qu'on refuse de voir parce qu'on a la mémoire courte.
Ouais.
Et puis, on se trouve ça cool, parce qu'on est en terrasse.
C'est ça, le truc.
Parce que nous, ça nous empêche pas de vivre.
C'est ça, le
truc. Sauf que maintenant, mettez le même effet que vous vivez ici, dans des régions où il fait déjà très chaud, et où le manque d'eau est déjà prégnant. Et vous aggravez la situation. J'ai oublié de dire, par exemple, qu'en Inde aussi, il y a des villes complètes qui disparaissent dans des fleuves, parce que les glaciers de l'Himalaya fondent 17 fois plus vite que prévu. 17 fois. C'est-à-dire, c'est énorme, hein. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, il y a des images, hein, vous allez sur, je crois que c'est Arte qui a fait un truc sur leur site, vous pouvez voir des images, voilà, les gens ont filmé, il y a des cascades d'eau. C'est-à-dire que ça n'existait pas avant, ça ruisselait. Là, c'est des cascades, ça coule en cascade. Et les fleuves, du coup, gonflent, et il y a des villes qui sont englouties dans les fleuves. Donc c'est tout ça, en fait, le réchauffement climatique. Et la troisième chose qu'aurait pu décider la COP, c'est de modifier nos modes de transport. Alors, je vais le dire très clairement, on tape sur l'aérien en permanence. Sauf que c'est pas le cœur du problème. L'aérien, on estime que ça. Alors, je dis pas qu'il faut pas. Prenez pas l'avion quand il n'y a pas besoin de le prendre. C'est une évidence.
Tu veux dire Lyon-Paris
Voilà, ça, vous le faites en train, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que l'avion en transcontinental, c'est pas ce qui amène le plus de CO2 dans l'atmosphère, contrairement à ce qu'on croit. Il y a des effets induits qui sont liés au fait qu'il y a de la vapeur d'eau qui est rejetée par les avions. Mais globalement, c'est pas ce qui est le plus emmerdant. En fait, je vais peut-être vous emmerder en le disant, mais le plus chiant, c'est la bagnole. La bagnole, les camions. Voilà. C'est les deux sources énormes d'émissions de CO2. Parce qu'on estime que c'est un tiers des émissions de CO2 des pays riches. Et pour les États-Unis, ça représenterait 45% des émissions de CO2. Donc c'est énorme. Et donc, si déjà on réfléchissait à dire, il faut remettre du rail un peu partout. Il faut remettre des trains. Il faut remettre du collectif. Même des bus à la limite, vous voyez, parce que c'est mieux d'être en bus que d'être seul dans sa bagnole. Et rien que ça, en fait, vous pourriez avoir un impact énorme. Et pour ça, en fait, il suffirait d'allouer des budgets. C'est-à-dire qu'on sait faire des budgets mondiaux de l'armement, mais a priori on sait pas faire des budgets mondiaux pour sauver l'humanité. Vous voyez, c'est... on sait comment faire des budgets pour détruire l'humanité, ça c'est sûr, on sait bien faire. Par contre, pour la sauver, on a un petit peu plus de mal. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, les COP, ça devrait réellement servir à ça. Sauf que ça ne sert qu'à cacher les choses et à faire en sorte que tout le monde garde sa zone d'influence. Et au final, ça sert à enfumer tout le monde.
Tu lances un truc sur les... Pas toi, hein. La COP21, ce truc sur l'écologie, etc. Et se dire qu'on ne va pas changer de système économique...
Déjà, on est foutu.
C'est déjà foutu. Je veux dire, le capitalisme, c'est l'appropriation, c'est le vol, c'est l'assèchement,
c'est tout.
C'est pompé jusqu'à la dernière goutte. C'est une logique de mort. Capitalisme, c'est
logique
une logique...
de profit, logique de mort.
Mais oui, c'est ça. De toute façon, ça ne sert à rien. C'est les États qui font, c'est les entreprises qui font, c'est des grosses ONG. Et malheureusement, quand même, plus on y regarde et plus on peut se dire que ce soit Greenpeace, WWF, on en a déjà parlé aussi ici. C'est foutu. On a peut-être pu y croire un temps, je me dis, mais là...
Il y a des initiatives qui sont plutôt intéressantes. Alors, je ne parle pas de ces grosses ONG, parle plutôt des petites ONG qui sont devenues un gros truc en France, parce qu'on entend beaucoup parler, c'est Alternatiba. Alors, j'ai beaucoup de choses à critiquer sur Alternatiba. Par contre, j'admets une chose très facilement, c'est que c'est des initiatives à échelle locale. C'est intéressant. Parce que clairement, il va falloir que les gens se réapproprient en local leur mode de vie. Parce que, on est mal parti. J'ai vu les résultats des élections ce soir.
Ce sera local, mais avec des murs et des barbelés.
Ce sera très étrange que ce qu'attendent les 50% des électeurs qui sont allés voter, c'est assez bizarre. Il va falloir revenir à l'échelle locale, mais pas du local fermé, c'est pas ce qu'on dit, mais simplement que...
Du local sans les murs.
Voilà, et puis en plus, je vais dire un gros mot, mais c'est revenir à un état, une sorte de fédéralisme qui fonctionnerait bien, vous savez, où les gens ils décident en local, puis après on élargit, on élargit. Et en fait, tout ça, c'est pareil, la COP, elle en parle jamais, parce que c'est un peu anard, c'est pas bien, un peu libertaire, tout, c'est pas cool. Ouais. Mais en fait, en gros, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des exemples de choses qui peuvent exister et qui ne se font pas. Et très clairement, on n'encourage pas les gens, on n'encourage rien. Je vais vous donner un autre exemple très très concret, et après j'arrête, de choses qui étaient très faciles à mettre en place et très faciles à faire. Il y a un professeur, dont j'ai perdu le nom, qui dit il faut que 75% de la production alimentaire se fasse dans un rayon de moins de 80 km pour que vous divisiez par 5 les émissions de CO2 liées à cette production alimentaire. Et là-dedans, il inclut même les vaches et tout. Il dit les productions alimentaires, c'est carné chez lui. Donc, vous voyez, c'est énorme. Il suffit juste de dire, Donc la COP, elle aurait pu mettre sur la table l'idée de dire, on revient à la souveraineté alimentaire. J'aime pas ce mot souveraineté, mais on revient à l'autonomie alimentaire. J'aime mieux ce mot-là, parce que je me suis un peu trompé avant. On revient à l'autonomie alimentaire pour tous les êtres humains. Donc on essaye de se donner les moyens, via la FAO par exemple, de mettre en place des programmes et des moyens financiers pour les pays qui en auraient besoin, pour que tout le monde puisse avoir accès à la nourriture locale. Ça n'a même pas été abordé. Mais quand je dis ça n'a pas été abordé, c'est que dans la table de négociation sur la nourriture, la seule chose qui a été abordée, c'est la notion de droit à continuer à avoir des cours du blé fixés par les bourses. Voilà, c'est ça qu'on a abordé à la COP. C'est n'importe quoi. Et si on veut sauver, non pas la planète, parce que la planète, elle survivra très bien sans nous, mais nous, l'humanité, il va falloir qu'on arrête un petit peu d'être dans des mirages et des illusions. Voilà, et qu'on fasse du concret. Donc voilà, c'était juste pour dire que cette COP, ça m'a un peu agacé. parce qu'il arrive un moment où il y a beaucoup de gens qui mettent de l'espoir là-dedans. Arrêtez de croire que c'est une personne en haut de son perchoir qui va vous sauver, parce que ça marche jamais. Par contre, vous pouvez vous prendre déjà des initiatives et vous pouvez mettre des coups de pied au derrière de vos représentants légaux pour leur dire il faut faire des choses, il faut les faire vite et bien. Ça s'appelle manifester, prendre la rue, tout ce qu'on nous empêchait de faire pendant la COP. Mais ça, c'était dans l'émission d'avant dont on a déjà parlé. Allez, musique. Well, I won't.
Eh ben, dis donc, ça gratte ce soir à la causerie. Hein. Eh ben, ouais, on vient de s'écouter. Pardon. On vient de s'écouter Tsunami Bomb avec le titre Lemonade. J'en sais rien.
Ça se dit comme ça.
Je m'excuse auprès de Nadège. Voilà.
Qui a fait choisir. Qui a choisi cette chanson, pardon.
C'est ça. Et ben, on est à la bourre, on est super à la bourre, on est que deux et on arrive quand même à dépasser le temps. C'est un peu.
C'est la causerie.
Ouais.
Non, c'est pas bien, on recommencera.
Promis. Non, on promet rien. On commence les brèves, hein, quand même. Pas mal de rendez-vous cette semaine. Ouais. Ça commence lundi 7, c'est demain donc, à 20h30 au cinéma Les Alizés à Bron. C'est dans la région lyonnaise, hein, pour celles et ceux qui nous écouteraient au-delà de la région de Lyon. Et c'est la projection du film documentaire, on va dire plutôt, pardon, qui a tué Ali Ziri. Donc ça se passera à Bron, comme je l'ai dit.
4,90€.
C'est ça, pour l'entrée, tarif unique. Et Ali Ziri, en fait, il est mort après
une interpellation.
Une interpellation où en fait on a dit que c'était un homme fragile et qu'en fait le médecin légiste a quand même retrouvé à peu près 27 hématomes sur tout son corps. Mais voilà,
impossible. Là, il était fragile, on pouvait pas taper à cette tuerie.
C'est ça. Donc encore une fois, hein, quand on parle souvent de l'état policier, de tout ce que ça peut faire, eh ben c'est des morts. Et ben Fab, je te laisse annoncer le prochain.
Oui, alors le prochain, c'est la CGT qui appelle à aller soutenir un délégué syndical qui est très très malmené par sa direction chez McDonald's. Donc ils ont appelé ça dialogue social à la sauce McDo. J'aime beaucoup. C'est le 9 décembre à 17h30 devant le McDo de la place Gabriel Péri. Voilà, alors c'est juste quelqu'un en fait qui veut faire respecter ne serait-ce que la convention collective de la restauration chez McDonald's. Et juste parce qu'il demande à ce qu'on respecte la loi, eh ben on lui met des bâtons dans les roues et on le maltraite énormément. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à aller le soutenir. Et je suis désolé, j'ai oublié de noter son nom. Donc voilà, mais pardon. C'est un oubli. Mais par contre, quel que soit son nom, ça change rien.
Oui, en fait, on s'en tape.
Voilà.
En fait, hein. C'est surtout,
ouais, c'est surtout, voilà, on voit qu'aujourd'hui, il y a une grosse répression contre les représentants syndicaux dans toutes les boîtes. Et que, il faut aller les soutenir. Donc, je répète, devant le McDo Gabriel Péri. Donc, c'est place, c'est vers la, pas la fosse aux sourdes du tout, mais c'est la place du pont. Mmh. Voilà. C'est à 17h30 le mercredi 9 décembre.
C'est ça. Et ben le week-end prochain, alors c'est samedi et dimanche 12 et 13, il y a le festival contre les discriminations qui se passe à Lyon.
Oui, c'est au CCO à Villeurbanne.
Ouais, il y a plusieurs trucs,
il y a plusieurs lieux. Allez sur Rebellion, il y a tout.
Voilà, il y a le programme, il y a plein de choses. Ouais. Et parmi ce plein de choses, il y a un goûter sonore qui sera organisé par des animateurs et des animatrices de Radio Canu. Ah, et ça se passera à la librairie La Griffe le samedi 12 à 16h30.
Ben voilà.
Voilà. Vas-y, je te laisse.
Je vais te redonner la parole. Et donc ensuite, on a l'annonce de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, à la causerie. C'est une pièce qui va se tenir. Et Jean-Yves, je te laisse en dire plus.
Oui, je vous en avais déjà parlé ici, en fait, de cette pièce. Et c'est cool parce que ça va se donner à Lyon. C'est samedi 12 et dimanche 13. C'est le groupe Graines d'Anard de la Fédération anarchiste de Lyon qui invite de 14h. 30 à 18h, pardon, à théâtre et discussion autour de Jean Mélier, notre bon vieux curé qui était athée, n'est-ce pas? Et ça se passait en 1700, hein, et donc il y a la représentation d'une pièce qui s'appelle Jean Mélier, athée, profession curé, et ce sera suivi d'une rencontre avec un auteur belge qui a écrit un livre sur Jean Mélier, et l'auteur s'appelle donc Serge de Ruette. Et tout ça se passera donc samedi 12 et dimanche 13. Vous retrouvez la représentation le samedi et le dimanche. La rencontre avec Serge de Ruette samedi et dimanche. Et tout ça.
Et l'apéro qui clôt tout ça le samedi et le dimanche.
Bah oui. Et donc tout ça se passera à la rotonde de l'INSA. C'est à Villeurbanne. C'est 20 cours des.
Avenue Albert Einstein.
Non, perdu. C'est 20 Avenue des Arts.
Voilà.
C'est ça, à Villeurbanne. Et sinon, c'est le tram INSA Einstein.
C'est ça. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le campus, en fait.
Ouais, c'est ça.
L'Avenue des Arts, elle est dans le campus de l'INSA. Voilà. Et la rotonde, pour ceux qui ont fait des études là-bas, vous savez ce que c'est. Et pour ceux qui n'en ont pas fait, ça s'appelle comme ça parce que c'est rond.
C'est ça.
Donc, ça se repère assez facilement.
C'est ça. Et c'est dans la salle René Char.
Voilà.
Pour les infos.
Et il y a un numéro de téléphone à appeler pour réserver.
C'est ça. C'est le 06.
69 94 49 90. En fait, c'est parce que ben, la salle, elle a que
entre 70 places.
Et ben voilà, que c'est l'idée que tout le monde ait sa place. Ouais. Ce serait cool parce qu'après, on peut pas non plus rentrer 15 millions de gens dans une salle qui n'en prévoit que 70.
C'est vrai. Et si vous êtes très curieux, vous pouvez retrouver toutes les infos aussi sur le site Rebellion ou sur le site du groupe Graines d'Anard, donc graines d'anard.org. Voilà. Et si vous lisez l'affiche, vous comprendrez pourquoi la causerie, ça nous tient à cœur que vous viendiez.
Voilà, on dira ça. Bah oui. Et ben, on va se quitter là quand même.
Bah ouais, à un moment donné, il faut y aller.
23h06. Oui. On a un titre qui dure. Ah non, ça va, il est pas trop long.
Ouais. Non, il est pas trop long.
Je croyais.
C'est du synfo, mais c'est pas long. Moi, mais c'est du synfo au piano, donc tu vois, c'est sympa. Et c'est le choix de Clara. Et donc, le titre, c'est 500 Letters. C'est de Taria et c'est dans sa version live. Donc, c'est pour ça que c'est au piano qu'elle avait fait au Volterix Radio. Et avant qu'on se quitte, je voudrais juste te dire quelque chose. Et c'est un clin d'œil à Nadège. Il y a des gens qui arrêtent pas de nous dire que les abstentionnistes, c'est nous qui faisons monter le Front National. Ce soir, on a vu une chose très, très amusante. Mais pas vraiment en fait, c'est que dans les régions où on a le plus voté, c'est les régions où le Front National arrive le plus en tête. Donc j'aimerais juste que vous réfléchissiez deux minutes au fait que non, les gens adhèrent juste aux idées fachos et ça n'a rien à voir avec le fait d'aller ou pas voter.
Oui, c'est voilà. Pas ceux qui ne se prononcent pas qui
voilà.
Sont fascistes. Hein.
Exactement.
Je vous laisse juste quand même, la semaine prochaine, en fait on sera là, mais sans être vraiment là.
Mais on est là quand même,
hein, faut pas déconner. Mais en fait on va vous diffuser, enfin Fab vous en avez parlé déjà la semaine dernière, on va diffuser une interview de CR qui est une femme voilà qui nous parlera de
son parcours de vie.
Voilà.
Un peu dans la veine de ce qu'on avait fait avec Jules sur Parcours Trans, mais là on sait pas un parcours trans, c'est un parcours de femme.
C'est ça.
Voilà.
Et ben on vous souhaite tout de suite là à l'instant une bonne nuit ou une bonne soirée.
Oui.
Selon vos programmes et vos projets. Pardon. Non, allez, on va rendre l'antenne parce que sinon ça va partir.
Fatigué ce soir. Allez, on se quitte donc avec Taria et 500 Letters.
C'est ça, bonne semaine à toutes et à tous, bon courage, ciao.
Salut.
Il faut que j'appuie play en fait.
written on.